le fais.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue à l'édition de ce vendredi 12 février 2016. À la une ce soir au Mali, double attaque contre l'armée malienne et les casques bleus dans le nord du pays.
Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies a exprimé son indignation 48 heures après son passage à Kidal.
Au Bénin, le premier tour de la présidentielle est reporté au 6 mars. Accusé de vouloir déstabiliser le Burundi voisin, le Rwanda annonce le renvoi des citoyens burundais réfugiés sur son sol. À la veille de la journée de la radio, les Burundais s'expriment sur le rôle de ce médium dans leur pays en crise.
Juste avant cette crise, on écoutait surtout la RPA, on nous informait et on était sûr de la véracité des informations qu'on recevait de cette radio et d'autres médias privés. Après la fermeture, c'est maintenant qu'on remarque à quoi ça servait.
Et crise en Syrie, Bachar al-Assad rejette les accusations de crimes de guerre alors que Moscou et Washington s'entendent sur l'aide humanitaire et une trêve dans les combats.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Journée de violence dans le nord du Mali. À Kidal, 3 casques bleus ont été tués dans une attaque terroriste. On compte aussi 30 blessés, dont 5 graves. C'est la deuxième fois que la MINUSMA est ainsi visée à Kidal en une semaine. Par ailleurs, dans la région de Tombouctou, une embuscade tendue par des hommes armés a tué 3 soldats maliens et blessé 3 autres. Les précisions avec Kassim Traoré.
C'est aux environs de 7h du matin que le camp de la MINUSMA basé à Kidal a été la cible d'une attaque à la roquette. Les échanges ont duré 2 heures. Le bilan provisoire de cette attaque est de 3 casques bleus tués, dont 5 dans un état grave. Sur l'axe Tombouctou-Goundam, une patrouille de l'armée malienne est tombée dans une embuscade tendue par des groupes armés. C'était dans les environs de 9h dans la localité d'Acharan. Bilan, 3 militaires tués, 3 autres blessés, un véhicule emporté. Côté assaillant, on ne connaît pas le nombre de victimes pour le moment. Les blessés maliens sont au niveau de l'hôpital de Tombouctou. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies a exprimé son indignation. Il exprime leur révolte par rapport à l'acte odieux et irresponsable qui est survenu une semaine après les arrangements locaux intervenus entre la plateforme et la CEMA et 48 heures après son passage à Kidal. A signaler que les 2 attaques de ce vendredi font suite à celle de Tombouctou contre le camp de l'aménagement où un soldat malien avait perdu la vie, tout comme 5 assaillants. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le Rwanda a fait part ce vendredi de son intention de renvoyer les réfugiés burundais qui sont sur son sol vers d'autres pays. Kigali était accusé d'ingérence dans les affaires du Burundi, plongé dans une grave crise politique depuis avril 2015. John Lyndon.
Les autorités rwandaises ont en effet annoncé qu'elles allaient immédiatement commencer à travailler avec les partenaires de la communauté internationale pour préparer de manière ordonnée et sûre le transfert des réfugiés burundais vers des pays tiers. Le Rwanda remplit sans hésiter ses obligations de protection des réfugiés. Cependant, l'expérience dans la région des Grands Lacs montre que la présence à long terme des réfugiés si près de leur pays d'origine présente des risques considérables pour toutes les personnes concernées, peut-on lire dans le communiqué du gouvernement. L'indifférence totale à la cause profonde, bien connue de l'instabilité au Burundi et de l'exode des réfugiés est troublante, a fustigé la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo. La semaine dernière, des experts de l'ONU avaient accusé le Rwanda de recruter et d'entraîner des réfugiés du Burundi voisin afin de renverser le président burundais Pierre Nkurunziza. Ces accusations ont été reprises mercredi par les États-Unis. Quelques 75 000 Burundais ont trouvé refuge au Rwanda, dont 25 000 à Kigali.
L'ONU a décidé de rapatrier 3 officiers burundais de la MINUSCA, sa mission onusienne en Centrafrique. Ils sont accusés d'avoir commis des exactions au Burundi, a indiqué une responsable de l'ONU.
Droit de la presse au Congo-Brazzaville, la police dément avoir violenté des journalistes mardi à l'arrivée à Brazzaville du général Jean-Marie Michel Mokoko, candidat à la présidentielle du 20 mars. L'organisation de défense de la presse, Reporters sans frontières, avait fait état de tels incidents.
Campagne contre la corruption au Nigeria. 12 officiers supérieurs font l'objet d'une enquête, a annoncé l'armée. Selon des médias locaux, l'aide de camp de l'ex-président Goodluck Jonathan ferait partie de ces officiers.
Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a nommé au poste de premier vice-président son ennemi juré Riek Machar, chef de la rébellion, pour se conformer à l'accord de paix signé en août 2015. Tatiana Mosso.
Le décret pris ce vendredi par le président Salva Kiir, Mayardi, nommant Riek Machar Teni comme son assistant immédiat, devrait faciliter la résolution d'une guerre civile à forte connotation ethnique qui, en plus de 2 ans, a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 2 millions de déplacés. Le conflit a éclaté en juillet 2013 quand Salva Kiir a limogé Riek Machar, l'accusant de fomenter un coup d'État. Machar redevient alors un chef rebelle et les violences éclatent dans la plus jeune nation africaine. Plusieurs tentatives de négociation ont échoué, chaque camp accusant l'autre de mauvaise foi et de violation. Finalement, sous la pression continue de la communauté internationale, notamment après les sanctions de l'ONU, les belligérants vont signer l'accord d'Addis Abeba pour l'instauration d'un cessez-le-feu et un mécanisme de partage du pouvoir. Riek Machar signe l'accord le 17 août 2015 et Salva Kiir, lui, emboîte le pas 9 jours plus tard, malgré ce qu'il appelle de sérieuses réserves sur plusieurs dispositions. Riek Machar a salué sa nomination ce vendredi comme un pas en avant dans l'application de l'accord de paix.
Procès de William Ruto à la Cour pénale internationale. Le vice-président kényan a remporté son appel sur l'utilisation par le procureur de dépositions de témoins recueillies avant leur rétractation. La chambre de première instance a interprété la règle de manière trop étroite au déprimant des accusés, a estimé le juge. William Ruto est poursuivi pour crime contre l'humanité.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, crise en Syrie, le secrétaire d'État américain John Kerry estime qu'un accord est maintenant en place entre les 6 puissances mondiales pour une cessation des hostilités et l'accélération de la distribution de l'aide humanitaire dans ce pays. Les précisions d'Idrissa Seloudia.
Cet accord porte sur une cessation des hostilités devant commencer dans 1 semaine et non pas le cessez-le-feu que réclamait l'opposition syrienne pour mettre un terme aux frappes aériennes russes sur Alep, ville aux mains des rebelles. Le secrétaire d'État américain John Kerry. C'est ambitieux, mais tout le monde est déterminé à agir le plus rapidement possible pour essayer de réaliser l'objectif. Un cessez-le-feu implique, rappelle un opposant syrien, des mécanismes de surveillance. En tout état de cause, l'accord en question ne s'applique pas aux groupes État islamique et autres organisations terroristes dont certaines se trouvent près d'Alep. Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov est son interprète. Les faubourgs ouest d'Alep sont encore contrôlés par Jabhat al-Nusra, Daesh al-Islam et Ahrar Islam. Pour le secrétaire d'État Kerry, mettre fin à la violence qui a déplacé des milliers de gens est essentiel. Mais il faut aussi un plan de paix.
Le président syrien Bachar al-Assad s'est dit déterminé à reprendre le contrôle de toute la Syrie, mais a averti que les combats contre les rebelles, qui cherchent depuis près de 5 ans à le renverser, pourraient être longs. Dans une interview exclusive à l'AFP, réalisée hier dans son bureau à Damas, M. Assad, au pouvoir depuis 2000, a affirmé vouloir mener des négociations avec l'opposition, tout en poursuivant la guerre contre la rébellion armée. La guerre en Syrie a fait plus de 260 000 morts en près de 5 ans et poussé des millions de personnes à l'exil.
Le premier ministre irakien Haider al-Abadi a promis ce vendredi que le groupe djihadiste État islamique serait chassé d'Irak avant la fin de l'année 2016, alors que son armée prépare une offensive sur leur bastion de Mossoul. « Nous voulons faire de cette année la dernière année d'existence de Daesh en Irak », a-t-il dit lors de la conférence sur la sécurité de Munich, dans le sud de l'Allemagne. Le premier ministre irakien a souligné que la tâche était désormais à la reconstruction des zones occupées et détruites par les djihadistes, mais que l'Irak faisait face à une chute énorme de ses revenus du pétrole, notamment du fait de l'effondrement des cours.
Manifestation dans le nord d'Israël en faveur de la libération du journaliste palestinien Mohamed Al-Kik, en grève de la faim depuis 80 jours. Des centaines d'Arabes israéliens, harangués par le chef d'un mouvement islamiste interdit en Israël, se sont rassemblés aujourd'hui devant l'hôpital d'Afoula, où se trouve le journaliste. C'est du moins ce qu'a constaté un correspondant de l'AFP. Incarcéré sans procès ni inculpation pour 6 mois renouvelables indéfiniment, Mohamed Al-Kik a arrêté de s'alimenter pour protester contre son emprisonnement. Ses défenseurs disent qu'il est en danger de mort.
Le pape François devait arriver ce vendredi au Mexique, deuxième pays le plus catholique au monde et l'un des pays les plus dangereux d'Amérique latine pour les prêtres, avec plusieurs dizaines de tués au cours de la dernière décennie. Pendant 5 jours, le souverain pontife plaidera pour les droits des immigrés et contre la violence endémique. En route vers le pays des Aztèques, François est passé par Cuba pour une rencontre historique à La Havane avec le patriarche orthodoxe russe Kirill, la première entre un chef de l'Église catholique et le patriarche de la plus importante des églises orthodoxes depuis près de 1000 ans. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Anastasie Tudiech.
Mining Indaba, le salon annuel des mines africaines, s'est terminé hier au Cap en Afrique du Sud dans un contexte morose entre ralentissement de la croissance chinoise et chute des cours des matières premières. En cause aussi le dialogue difficile entre les États et les entreprises. D'un côté, les mines attendent des États qu'ils garantissent les investissements et maintiennent un contexte politique stable, pendant que les États appellent les entreprises minières à limiter les restructurations qui se traduisent généralement par le licenciement massif de mineurs peu qualifiés. Mine toujours en Guinée, cette fois, le géant anglo-australien Rio Tinto a annoncé avoir déprécié $1 milliard le projet de la mine de fer de Simandou. En cause, là encore, les faibles cours internationaux des minerais, mais également le flou quant au financement des infrastructures associées à l'exploitation de la mine. Une production annuelle de 100 millions de tonnes de fer est prévue à Simandou à compter de 2018. Le COET va signer la semaine prochaine avec l'Italie un contrat pour l'acquisition d'avions Eurofighter, une transaction évaluée à environ 8 milliards d'euros, soit 8 à 9 milliards de dollars. L'Émirat est membre de la coalition anti-État islamique opérant en Syrie et en Irak et il est aussi engagé dans le conflit au Yémen au sein de la coalition arabe qui combat les rebelles chiites Houthis soutenu par l'Iran.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Anastasie.
Et nous passons tout de suite à l'actualité sportive avec Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Alors, en commençant, football africain.
Oui, les tours préliminaires allés des deux compétitions démarrent donc aujourd'hui.
Et vont Quelle continuer compétition
des deux compétitions, la Ligue des Champions, la Coupe CAF, ce qu'on appelle la Coupe de la Confédération, vont donc démarrer aujourd'hui et continuer jusqu'au dimanche prochain. Tous les matchs sont programmés en 20 rendez-vous. La finale est prévue le 23 juin pour la Ligue des Champions, tandis que celle de la Coupe de la Confédération se jouera le 6 novembre.
Match amicaux entre le Burkina Faso et l'Égypte, puis la Jordanie.
Oui, les étalons locaux du Burkina affrontent l'équipe nationale de Jordanie le 1er mars prochain, un match international amical. Bien avant cette rencontre, les locaux burkinabés affronteront les pharaons d'Égypte, ce sera le 27 février. Ces deux rencontres chérubins serviront dans le cadre de la préparation des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 qui auront lieu entre les 23 et 29 mars.
La Copa del Rey. Nous sommes en Espagne. Séville rejoint le FC Barcelone en finale.
Oui, le FC Séville donc s'est logiquement qualifié hier pour la finale de la Coupe du Roi. Il devra faire face à l'armada barcelonaise composée de son trio magique, MSN comme on dit, Messi, Suarez, Neymar. Barcelone est le tenant du titre.
Il n'y a pas que Platini et Blatter à être suspendu à la FIFA. C'est le tour de Jérôme Valcke maintenant.
Oui, l'ex numéro 2 de la FIFA a été suspendu 12 ans de toute fonction liée au football par la justice interne de la Fédération internationale. Le Français âgé de 55 ans avait été relevé de ses fonctions le 17 septembre dernier après avoir été mis en cause dans une affaire de revente de billets du Mondial 2014 avant d'être limogé le 14 janvier. Il est aussi suspendu du jeu de football.
Mais ça, on ne sait pas. En athlétisme, deux athlètes ont accusé le directeur général de la fédération kenyane de corruption, Magasin.
Oui, tout à fait. Les deux athlètes ont dit que ce responsable de leur fédération leur a demandé un pot de vin pour atténuer la durée de leur suspension pour dopage. L'Agence mondiale antidopage s'est dite extrêmement troublée par ces révélations.
Et en basket, Milwaukee a battu Washington. Merci, Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guériac et Chérubin Dorsil en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale ce vendredi soir, Cotonou.
Et les Béninois n'iront plus aux urnes le 28 février pour le premier tour de l'élection présidentielle. La Cour constitutionnelle, par décision rendue hier soir, a décidé de reporter le scrutin d'une semaine. Elle demande au gouvernement de convoquer le corps électoral pour le 6 mars 2016. Notre correspondante Ginette Fleur Adandé nous en dit un peu plus.
Il n'est pas possible que nous rentrons en campagne. Donc le scrutin ne peut plus avoir lieu le 28. C'est la faute de l'indisponibilité des cartes d'électeurs. Tout citoyen qui détiendrait l'une des cartes, les nouvelles cartes ou les anciennes, pourrait se rendre au scrutin si le 15 prochain, toutes les cartes n'étaient pas éditées.
C'était là l'avis d'un représentant d'un présidentiable qui, au thème d'une rencontre avec la Sénat, portait ses réserves quant à la tenue effective du premier tour de l'élection présidentielle. Quelques heures après cette rencontre des présidentiables avec la Commission électorale nationale autonome, deux d'entre eux, Abdoulaye Biotchane et Patrice Talon, porteront plainte contre le COSLEPI devant la Cour constitutionnelle. Ils reprochent à ces organes clés l'indisponibilité des cartes d'électeurs et demandent à la Cour de constater l'impasse dans laquelle le COSLEPI voudrait plonger le Bénin. La décision de la Cour sera sans appel. Le report d'une semaine du premier tour de la présidentielle. Dans la rue, les avis sont divergents.
Ça ne règle pas encore le problème auxquels les Béninois sont confrontés aujourd'hui.
C'est une très bonne décision. Jusqu'à présent, les cartes ne sont pas disponibles. Et si la Cour considère, décide de prendre cette décision, elle est sanitaire.
C'est bon ce que la Cour a dit, mais la Cour a trop attendu. Normalement, la Cour allait dire ça depuis. Ce n'est pas bien, ça ne donne pas une bonne image pour le pays.
Pour que la Cour soit raisonnable et même transparente.
Pour la société civile, il y a comme une sorte de pagaille qui entoure l'organisation des élections.
Je crois qu'on tourne toujours en rond, on ne veut pas évoluer puisque ce qui se passe actuellement. Tout porte à croire qu'en fait, la République n'a plus de droits, la République n'a plus de lois. Chacun se lève et fait ce qui le plaît. Mais dites-vous qu'en fait, nous avons un coach depuis dirigé par quelqu'un qui est en toute illégalité. Il n'est plus légal en ce qui concerne face à la loi aujourd'hui. Il aurait déjà fini son mandat depuis le 31 janvier. La Cour, au lieu de se prononcer sur ça, a voulu quand même privilégier. C'est d'ailleurs bon, mais on devrait aussi statuer sur le cas d'abord de celui qui prend la tête du COSLEPI, celui qui nous empêche aujourd'hui d'avoir les cartes d'électeurs dans le pays. Moi, j'ai fait un tour, par exemple, au COSLEPI. J'ai constaté avec amertume que ça ne bouge pas. Il y a des départements qu'on n'a même pas encore pensé imprimer leurs cartes.
Pour le moment, au niveau du COSLEPI, le silence est de marbre et les spéculations vont bon train pour expliquer comment 11 mois n'ont pas suffi pour confectionner les cartes d'électeurs. Dans le camp du pouvoir en place, on pense avoir joué sa partition pour éviter cette situation. La campagne électorale censée démarrer le 13 février est reportée à une date ultérieure en attendant que le gouvernement ne convoque, selon la décision de la Cour constitutionnelle, le corps électoral pour le 6 mars prochain. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Maintenant sur le Burundi, où les habitants ne disposent depuis plus de 8 mois que des médias acquis à la cause du parti présidentiel pour s'informer. Avant la destruction des médias indépendants, le Burundi figurait parmi les pays d'Afrique où la liberté d'expression était la mieux garantie. Depuis la guerre civile de 1993 jusqu'à la signature de l'accord d'Arusha en l'an 2000 en Tanzanie, le Burundi disposait de nombreuses radios indépendantes. Dans un contexte de crise assorti de violences meurtrières, quel peut être le rôle de la radio ? Notre correspondant à Bujumbura, Christophe Kurunziza, a posé la question aux habitants de la capitale.
Cette maman vit dans un quartier apparemment calme de la capitale Bujumbura. Elle est mariée et mère de 3 enfants, la quarantaine. Elle travaille dans une organisation internationale qui décortique tous les contours de l'économie burundaise. Même pendant les moments de bonheur, la radio joue un rôle de premier plan dans sa vie de tous les jours.
Juste avant cette crise, on écoutait surtout la RPA, on nous informait et on était sûr de la véracité des informations qu'on recevait de cette radio et d'autres médias privés. Après la fermeture, c'est maintenant qu'on remarque à quoi ça servait, c'est maintenant qu'on voit ce qu'on a perdu. Il n'y a plus d'informations, il n'y a plus rien. On n'est pas informé, on va sur WhatsApp. Des fois c'est vrai, des fois c'est pas vrai. On ne sait pas à quel sens on voit à propos de l'information. Vraiment, on est désolé. Je me suis rendu compte de l'utilité de la radio en son absence. Mais maintenant, on n'a plus d'informations fiables. On ne sait plus quoi faire pour planifier ma vie, pour planifier ce que je dois faire, ça provient de l'information pour la vie quotidienne.
Cette autre femme rapporte que dans des moments de détresse comme ceux que le Burundi a traversé pendant des décennies, la radio a toujours tranquillisé sa famille et elle-même.
Par exemple, la radio RPA, c'est la seule radio qui osait dire la vérité. Si le gouvernement tue les gens, il osait dire la vérité. Mais les autres radios, ils ont peur. Les autres radios, ils essayaient quand même d'appuyer la RPA et d'essayer de dire la vérité aussi, mais c'est dommage, ils ont abîmé les radios.
Pour ce monsieur qui a requis l'anonymat, l'information véritable et le programme de la journée se faisaient par les radios indépendantes au Burundi.
Personnellement, la radio m'aide beaucoup parce que je reçois des informations de la part de la radio, surtout dans ces moments de crise que nous traversons. Et nous avons besoin de connaître la situation sociopolitique. C'est pourquoi on doit recourir à la radio pour avoir des informations.
Est-ce que pendant toutes ces années, est-ce que vous avez eu des informations qui vous ont aidé dans votre vie de tous les jours?
Oui, seulement vous savez que depuis le mois d'avril, il y a beaucoup de radios qui ont été détruites. Ça veut dire que les informations que nous recevons ne sont pas des informations complètes, si je peux dire. On doit recourir à certaines radios étrangères pour pouvoir compléter certaines informations qui nous manquent. On doit essayer de chercher des informations pour savoir si on va au travail ou pas, ou bien si certaines activités tu vas les faire comme à l'accoutumée ou pas.
Au moment où le monde célèbre la journée mondiale de la radio, le Burundi, avec ses plus de 10 millions d'habitants, à part les radios internationales comme VOA Afrique, RFI de Chevela et la BBC, aucune radio indépendante ne les met sur FM ou les ondes courtes depuis la destruction par des gens inconnus de toutes les radios et télévisions indépendantes au Burundi en mai dernier. Christophe Kurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Cette semaine, les voitures s'invitent dans Vous et Nous. Roger nous emmène dans un salon automobile très populaire. Puis nous allons découvrir des voitures qui se conduisent elles-mêmes. Nous irons aussi à Bamako avec Toumani Diabaté, organisateur du festival acoustique Bamako. Isha Serraï viendra nous parler d'une drôle de tradition américaine, le jour de la marmotte. Sadi Bousso, du magazine Afrique Numérique, nous a préparé une liste des applications à connaître quand on vit en Afrique. Sans oublier nos rendez-vous Facebook et On dit quoi ? À bientôt.
À une semaine des élections en Ouganda, l'inquiétude grandit. Des organisations de défense des droits de l'homme sont en effet préoccupées par les discours de plus en plus violents que tiennent les dirigeants du pays. Depuis Kampala, la correspondante de la VOA, Elisabeth Paula, nous propose ce reportage relaté ici par Jacques Aristide.
La campagne électorale bat son plein sur tout le territoire ougandais. Le 18 février, les électeurs se rendront aux urnes pour 3 scrutins, présidentiels, législatifs et locaux. Mais la tension est très palpable sur le terrain. La peur aussi. Et les forces de l'ordre, censées rassurer la population, semblent plutôt amplifier cette anxiété. Exemple, cette déclaration choc le mois dernier du chef de la police à Calais Kayihura, qui n'a pas hésité à dire que si l'opposition voulait la guerre, il donnerait des armes aux crime preventers, ou pour traduire, empêcheurs de crimes. Ce sont officiellement des groupes de jeunes, des bénévoles, qui patrouillent avec la police pour prévenir les actes criminels. Le parti au pouvoir n'apaise pas les esprits non plus. La secrétaire générale du mouvement de résistance nationale, NRM, a été entendue à la radio proférer des menaces à l'encontre des citoyens. L'État tuera vos enfants s'ils descendent dans la rue pour contester les résultats des élections », a déclaré Kasule Lumumba. Beaucoup d'Ougandais sont restés bouche bée après les propos de Lumumba et Kayihura, bien que tous deux aient timidement fini par dire que leurs propos avaient été mal rapportés. Mais pour les militants des droits de l'homme, ce même type de rhétorique dangereuse est repris par les commissaires de district qui sont nommés par le chef de l'État pour gérer les communautés locales, comme l'affirme Patrick Tumwine de l'ONG Human Rights Network Uganda.
Si ça ne s'arrête pas, si la commission électorale ne condamne pas sévèrement de tels dérapages et ne réclame aux différents camps et candidats de cesser ces discours haineux, tout cela pourrait entraîner à la violence. La secrétaire générale du NRM a fait des déclarations graves. C'était bien sa voix qu'on a entendue. La plupart des commissaires de district à travers le pays disent la même chose. Ils mettent en garde la population en affirmant qu'ils vont tirer sur les jeunes s'ils décident de manifester. C'est une menace de leur part. Est-ce un avertissement? Tout cela est-il planifié?
Is it planned? Néanmoins, certaines campagnes publicitaires à la télévision ne sont pas pour réconforter la population. Des publicités vont jusqu'à montrer des images de crânes et évoquer l'éventualité d'une guerre. Human Rights Watch a appelé le président Yoweri Museveni et d'autres dirigeants ougandais à prôner la paix et réaffirmer le droit à la liberté de réunion, mais l'appel demeure pour l'heure sans réponse.
Notre dernier dossier ce soir, le président sud-africain Jacob Zuma, qu'on disait affaibli par divers scandales, est passé à l'offensive ce vendredi. Il a accusé les députés de l'opposition d'ignorer les règles de la démocratie et d'avoir inutilement tenté de perturber son discours jeudi au Parlement. De leur côté, ses adversaires, parmi lesquels le parti des combattants de la liberté économique de Julius Malema, le jugent indigne de diriger le pays et exige sa démission. Pour un éclairage, Timothée Donangmaï a joint le professeur André Thomashausen de l'Université d'Afrique du Sud à Pretoria.
Il y a des observateurs qui pensent que la plupart de ce discours a été influencé très sincèrement par le nouveau ministre des Finances, M. Pravin Gordhan, qui est un ami de l'austérité, un ami d'une conduite des gens modestes. Alors ça a influencé Zuma qui a déclaré que ce serait la fin des dépenses extravagantes des ministres et de leurs fonctionnaires. Il n'y aura plus de voyages en classe exécutive, il n'y aura plus de visites inutiles, et il y aura une certaine austérité au point de vue des dépenses publiques. Il a aussi annoncé, et ça a été très bien accueilli, qu'il y aurait une nouvelle politique d'appui aux investissements étrangers. Il a avoué qu'il se rend compte que la densité les réglementations en Afrique du Sud, la bureaucratie réglementaire sont excessives et qu'il faut trouver des moyens pour faciliter les investissements étrangers.
Et du coup, le président Zuma a saisi l'occasion pour s'en prendre à ses adversaires politiques et les accuser d'ignorer les règles de la démocratie.
Oui, bien sûr. Il a censuré le IFF, le jeune politicien Malema, l'ancien président de l'organisation de la jeunesse de l'ANC, qui a fait son parti indépendant, et il a accusé d'agir en effet d'une façon fasciste et intolérante, en essayant d'empêcher le président de la République de prononcer son discours. Mais il y a aussi la menace du côté de l'EFF que Zuma va tomber. Ils ont développé un nom qui se moque bien de Zuma. Ils l'appellent maintenant en public Zupta. C'est une combinaison de son nom de Zuma avec le nom de la famille très influente indienne Gupta. Alors Zuma est devenu le Zupta. Et ça évidemment ridicule le président de la République. Dans les traditions africaines, c'est toujours sévère si un chef d'État est exposé au ridicule. Ainsi, il y a des spéculations que Zuma pourrait être obligé de se démissionner d'ici à quelques semaines si vraiment il ne trouve plus d'appui, même dans son propre parti, si l'insatisfaction surtout des gens pauvres, de la classe ouvrière, des gens qui vivent à l'intérieur du pays, continue.
Voilà, c'était le professeur Thomashausen, André Thomashausen, de l'Université d'Afrique du Sud à Pretoria.
Et c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Joselle Morissin. Présentation, Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil.
Et on remercie Zorniak à la technique. Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Partagez vos impressions, photos, vidéos et posez des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.